Seigneur notre Dieu, nous voulons nous incliner devant toi, autour de ta parole. Seigneur, que ce soit toi qui parles à nos cœurs, Seigneur, et non pas Guifour. Vraiment, puisse-nous nous faire du bien encore ce matin. Merci pour la joie, le privilège de pouvoir être ensemble, Seigneur, goûter à ces instants de communion autour de ta parole. Amen. Amen. Alors, marcher avec Dieu. Des gens qui marchent avec Dieu. Alors, j'essayais de partager quelque chose avec vous, parce que je pense que c'est pas quelque chose de facile, surtout quand on a la parole de Dieu en miroir. Mais bon, nous avons besoin de nous encourager. Fortifiez-vous et ayez du courage. Pour ceux qui froncent les yeux, donc je vous le lis. J'ai scanné une plaquette, hein. C'est pour ça que j'ai pas pu augmenter la taille du texte. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 6. Alors, un petit peu le plan de ce message. On va partager quelques petits mots d'introduction. On va essayer de regarder quelles sont les raisons peut-être qui nous empêchent d'aller au même pas que Dieu. On voit qu'il y a deux traces comme ça. On va essayer de regarder un petit peu au divin modèle qui est Christ, bien sûr, dans sa marche avec son Père. Et puis donc, une petite conclusion, sommes-nous des gens qui marchent avec Dieu. Alors, quelques mots d'introduction. Comme c'est merveilleux, ce Dieu éternel, à qui nous avons apporté notre louange, à qui nous avons rendu grâce, il nous dit qu'on n'a pas à s'effrayer, car lui-même veut marcher avec nous. C'est rassurant pour notre âme. C'est des paroles bénies, même si au quotidien, des fois, c'est dur, parce que la réalité est là. Mais qu'est-ce que ça signifie marcher? Alors, j'ai bien aimé cette photo, parce que c'est dans la neige et tout, donc c'est... n'est-ce pas? Eh bien, c'est avancer à pas mesurer, ni trop rapidement, ni trop lentement, mais aller de l'avant. En ayant conscience que rien ne peut me détourner de cette allure. Aujourd'hui, en 2012, entre guillemets, dans notre monde agité, j'ai mis entre parenthèses pour les anglophilophones, speed, la marche avec Dieu est devenue quelque chose de pas simple, peut-être même rare. Mais qu'est-ce qu'une marche avec Dieu? S'il n'avait pas promis lui-même, comme il est écrit dans ce verset, de marcher avec nous, j'oserais même pas aborder le sujet. Mais il est possible de marcher avec lui, lui le Dieu d'éternité. Non seulement aller de l'avant avec lui, mais marcher au même pas que lui. Cette photo neigeuse me rappelait aussi, je regarde Muriel, elle n'est pas là, mais les courses en montagne, entre guillemets, où on est encordé et on marche fidèlement du pas du montagnard, on avance. Si on veut aller loin, eh bien on avance modérément, on calcule son souffle et on suit le guide. Pour pouvoir marcher longtemps, avancer longtemps, il faut avoir de l'entraînement. Je la regarde, je ne vois pas Émilie ce matin, parce qu'elle doit sûrement s'entraîner. Émilie, elle est devenue un peu comme Gabi, elle court, je ne sais pas combien, 10-12 km par jour, elle fait des treks, tout ça. Donc, ça ne vient pas comme ça. Ça demande du travail. Et bien, la marche avec Dieu, c'est pareil. Ça demande de l'entraînement. Ce maintien de l'allure avec lui doit venir de nous-mêmes, de l'intérieur. On a parlé de paix intérieure que Dieu nous donne. Cette marche vient de lui, pouvoir synchroniser ses pas avec lui, ça vient de lui. C'est le reflet de l'intimité que nous avons avec notre Dieu. Voilà pour cette courte introduction. Quelles sont les raisons qui peuvent m'empêcher d'aller au même pas que Dieu et de marcher sur cette belle course en montagne? Alors, on va voir plusieurs, elles ne sont pas exhaustives, hein, bien sûr, mais bon, des raisons qui vont sembler importantes. On en a parlé, il y a un manque de relation, d'harmonie entre le Dieu vivant et moi, mon âme. Quand la barrière du péché vient s'abaisser entre moi et mon Dieu, c'est clair. Nous ne pouvons alors difficilement marcher synchrone avec lui, synchroniser. Soit que nous marchons trop vite dans nos sentiers, soit qu'on marche un peu en arrière, qu'on traîne le pas, ou qu'on prenne une voie orthogonale. Orthogonale, ça veut dire à 90 degrés. Amos 3:3 dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? La première condition pour pouvoir marcher avec le Dieu vivant est donc d'être avec lui, en communion, en échange avec lui. On l'a rappelé tout à l'heure, uni avec le Dieu Saint par le Seigneur Jésus-Christ et son sang versé. C'est sûr que c'est le point de départ. Golgotha, la croix, on en parlera, et après, on commence la marche. C'est pas la peine d'essayer de marcher si on n'est pas passé par ce sang versé et par le sacrifice du Christ. Nous pouvons alors nous laisser conduire par lui, par son action, par ses pas, par son esprit, être son enfant. Bien souvent, voire malheureusement, beaucoup peuvent avoir une marche de foi faite de haut et de bas. Marche incertaine, vacillante. Tantôt on avance joyeux, on est gonflé à bloc, tantôt on stagne, triste et résigné. Pour revenir à la montagne, il y a des moments où on a une pêche extraordinaire et il y a des moments où on passe par des coups de creux, des grands coups d'hypoglycémie ou des choses comme ça, mais il faut quand même avancer. Il faut marcher. Et pourquoi faut-il continuer? L'Éternel, notre Dieu, est-il changeant? Est-il versatile? Y a-t-il l'ombre d'un changement chez notre Dieu? Avons-nous un Dieu craintif, un Dieu impuissant? Deutéronome 32, un morceau du verset nous dit: il est le rocher, et ses œuvres sont correctes, à peu près bien, non, elles sont parfaites. Elles sont parfaites. Le péché peut entraver notre marche, on l'a dit, ne pas vivre dans l'intimité avec son Seigneur. Il y a aussi un sujet que je souhaitais partager avec vous. Beaucoup se laissent intimider par le monde dans lequel on vit et par voie de conséquence par les puissances du malin, du ténèbre, qui sont là parce que c'est le prince de l'air et de la terre, c'est Satan. Certes, on est plus que vainqueur, mais on va voir. On va lire quelques versets dans Éphésiens 6, et il est bon de s'en rappeler, même nous, enfants de Dieu. Éphésiens 6, les versets 10 à 18, avec ce verset central que nous garderons, qui est le 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Vous le connaissez, vous allez voir, hein, il y a une question de casque, d'épée, mais quand même. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du... Bon. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, désolé. C'est le verset 12. Hein. Tenez donc ferme, pardon, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile de paix, pas le mien. Le zèle que donne l'évangile de paix. On évoquera un peu ce passage après. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et prier pour tous les saints, tous les frères et sœurs, prier les uns pour les autres. Ce n'est pas un encouragement. Alors, on est dans un monde, on a les pieds sur terre, on a la tête au ciel, mais bon, on est quand même entouré par pas mal de pièges, puissance menaçante des ténèbres. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous marchons avec le Dieu vivant. Nous sommes plus que vainqueurs, par la puissance du sang versé à la croix, la mort a été vaincue, notre chemin de résurrection est tracé en lui. On chante souvent, le psaume 23, verset 4, nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas sur quoi repose, je ne crains aucun mal, pardon, sur quoi repose cette certitude, car tu es avec moi. » Car tu es avec moi. Marcher ainsi avec le Dieu vivant, ici-bas, c'est être avec lui, l'avoir à nos côtés, en permanence. C'est une réalité. Devant lui, les ténèbres disparaissent, parce qu'il est lumière. Et le seul moyen de faire disparaître les ténèbres, on peut allumer la lumière le matin dans sa chambre, mais c'est le soleil, vous voyez la belle image, hop, et tout aveuglé, la lumière du Christ éclaire nos vies et fait disparaître les ténèbres. On a beaucoup d'exemples, bien sûr. Regardons Moïse, de qui il est dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Si je pratique cela dans ma vie quotidienne, je vais être encouragé et je vais marcher avec lui. Certes, je ne le vois pas de mes yeux terrestres. Je ne sens pas sa présence. Mais par la foi, je sais qu'il est tout près de moi et qu'il marche, qu'il est avec moi et qu'il me soutient. Il peut y avoir une autre raison pour laquelle on a un peu du mal à marcher. Il y a une autre raison pour laquelle de nombreux enfants de Dieu ne connaissent plus la joie de la marche pratique avec Dieu. Deux points. Une lassitude physique, bien plus une lassitude intérieure, une certaine langueur peut nous envahir. Le stress est le maître mot ici-bas, dans notre monde de 2012. Hein, on n'entend parler que de ça dans les entreprises et dans le monde bouleversé. Alors que notre vie, je parle pour notre Europe de l'Ouest, matérielle, n'a jamais été si commode. Nous n'avons jamais eu autant de loisirs qu'aujourd'hui. Des moyens techniques et technologiques, on en a. Plus qu'on n'ait pu l'imaginer, même quand nous étions de la génération il y a 20-30 ans en arrière, quoi. Quand on regarde comment les choses ont évolué. On n'a jamais eu autant de loisirs qu'aujourd'hui. Des moyens techniques nous permettent de gagner du temps. Est-ce que ça nous permet vraiment de gagner du temps? Pour en faire quoi? Quelle utilisation j'en fais? Pourtant, les gens, nos contemporains autour de nous, sont de plus en plus fatigués. Il y a un autre mot qui est bien à la mode aujourd'hui, un anglicisme, excusez-moi, on appelle ça le burn-out. Hein? Vous en avez entendu parler un peu. Ça existe, même pour les enfants de Dieu, parce qu'il y en a même qui ont écrit des livres à ce propos. Des enfants de Dieu. Un enfant qui est lassé, résigné, ne marche plus avec le même pas que Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, j'ai mis entre parenthèses, hormis la maladie, bien sûr, loin de moi d'accuser une quelconque, je n'aborde pas ce sujet-là. Cette fatigue, cette lassitude extérieure provient d'un engourdissement intérieur. J'ai mis entre parenthèses le rhume de l'âme. On a l'âme enrhumée, grippée. Un enfant de Dieu qui est lassé, résigné, ne va plus au même pas que Dieu. Il reste à la traîne, il n'a plus de communion quotidienne de vie avec son Dieu, avec l'Éternel. Et c'est ainsi que se tarit le courant de la grâce quotidienne. Non pas à la source, hein, la source elle coule toujours. Mais avoir l'homme enrhumé, c'est comme si on ouvrait le parapluie, vous savez, plof. La grâce coule, mais on se met à l'abri. Elle coule à côté. J'ouvre ce parapluie qui m'éloigne, j'ai même fait des vers, j'ouvre le parapluie qui m'éloigne de ces flots bénis. Flots de grâce. Celui qui est fatigué, j'ose employer un mot parce que ça me concerne un peu, paresseux, dans sa relation avec Dieu, laisse échapper la grâce que Dieu verse abondamment tous les jours sur lui. Quelles sont les conséquences de tout cela pour moi, pour nous? Ben, il faut bien continuer quand même à avancer quotidiennement. Avec sa famille, avec ses frères, avec ses sœurs, avec les responsabilités que nous avons tous autour de nous. Ne plus marcher avec lui obscurcit sa lumière en nous. Vous savez, comme le potentiomètre, là, on baisse, et puis la lumière, elle s'éteint un peu. Cette lumière n'est plus la force motrice qui agit à travers nous. Alors, qu'est-ce que c'est qui agit? Eh bien, je marche avec mes propres forces. Et la fatigue et la lassitude surviennent. La vie de foi intime n'est plus véritable, parce que la source incomparable de la grâce qui jaillit de la marche de Dieu est interrompue, coupée. Nous étions esclaves du diable, nous sommes devenus esclaves de Christ. C'est une réalité. C'est ainsi que naît, j'ai mis des gros guillemets, la vie chrétienne sans vie intérieure. Petit à petit, ceci devient une amère détresse intérieure. Je, tu, vous, il se réfugie dans l'action, faire semblant, comme si, et la fatigue s'accumule, 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 s'accumule. Simuler ce qui ne correspond pas à l'état du cœur ne peut durer longtemps parce que le courant de la grâce est interrompu. On est à l'abri. On marche seul, indépendant, électron libre. Il y a un texte, un court extrait de verset dans Ésaïe 40 qui nous dit « Il marche et ne se fatigue point. » Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, si vous êtes concerné, contre cette fatigue dans la marche avec Dieu, qui jour après jour nous titille, nous remarque? Alors, il faut quand même avoir des choses positives dans tout ça. C'est que si on se pose des questions à ce propos, ça veut dire que l'Esprit-Saint, il est là derrière, et il travaille, mais il faut se poser ces questions. Alors, on trouve les réponses, bien sûr, dans la parole de Dieu. On va encore regarder dans Ésaïe 40, le verset 12, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » On est bien d'accord, hein, les forces, il ne s'agit pas des forces musculaires qui vont me permettre de faire un épaulé jeté à 120 kilos. Hein. Quoique la force intérieure a des effets sur la force extérieure. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ne se lassent pas, ils marchent, ne se fatiguent point. C'est un verset préféré d'un très cher frère. Il faut se le mettre dans un petit coin, là, comme ça va pas. Hop. Je ne serai plus fatigué intérieurement si j'apprends à m'attendre à l'Éternel, jour après jour, si je renoue cette relation de vie avec lui. C'est comme ce chant qu'on chante de temps en temps, là. Être fou, amoureux de toi, mon Dieu, n'est-ce pas? Je ne sais plus quel est le titre. Mais c'est une belle image. Si... Peut-être, c'est la biche. Mais voyez encore une fois, des bouquins, des cantiques, ça veut bien dire que ce danger nous guette, frères et sœurs. Je ne serai plus fatigué intérieurement si j'apprends à m'attendre à l'Éternel jour après jour, si je renoue cette relation avec lui. Alors bien sûr qu'on va retomber dans les lapalissades bibliques et évangéliques. Renouer avec lui, c'est l'écouter, c'est lui laisser du temps. On a dit que les moyens technologiques aujourd'hui nous donnaient du temps, nous permettaient de gagner du temps. Pour ceux qui utilisent un ordinateur, même pour son travail, entre guillemets, est-ce que vous vous êtes rendu compte au combien, je vais employer un mot barbare, l'informatique peut vite devenir quelque chose de chronophage. Chronophage, c'est-à-dire qui mange du temps. Un jour, vous faites l'expérience, vous asseyez devant votre ordinateur, vous faites ce que vous avez à faire, vous regardez l'heure, et puis vous regardez, quand vous avez fini, regardez le temps qui s'est passé. Regardez le temps qui s'est passé. On confie, on donne tellement facilement de notre temps à d'autres choses qu'à Dieu. Pourtant, c'est lui qui est le maître de notre temps. Alors, chassons cette latitude intérieure en apprenant ou en réapprenant à nous attendre quotidiennement à l'Éternel. S'attendre à l'Éternel, c'est être en communication, en prière régulière, fidèle avec lui. On l'a vu tout à l'heure, hein, ce beau verset qui nous exhorte à prier pour les saints, les uns pour les autres. L'absence de prière et lassitude intérieure vont de pair. Aussi vrai que Dieu est vivant, il est fidèle à sa parole. Il peut nous régénérer, nous redonner des forces actuellement, aujourd'hui, défaillantes. Il veut me voir prendre ton envol comme un aigle, sans te fatiguer, pour autant que je le désire. Des fois, on a des discussions avec certains métaphysiques entre le libre arbitre de l'enfant de Dieu, quoi. Ben voilà quelque chose d'important. Le libre arbitre, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais de ce choix? Je suis enfant de Dieu, j'ai le choix de dire je vis dans l'intimité avec le Seigneur, je passe du temps avec lui, ou non. Pour décoller et voler, il faut prier et ainsi marcher aux côtés de lui. Alors, troisième et dernier petit paragraphe, marcher comme Jésus a marché, le divin modèle. Parce que, au final, au bout du bout, Dieu va nous appeler dans sa grâce à être dans une communion extraordinaire, puisque Jésus est notre frère, nous serons dans cette relation parfaite que Dieu veut. Nous serons ses enfants, son peuple, qui vont le louer et le bénir. Jérémie 10, 23 dit, c'est intéressant ça, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » L'électron libre. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Jérémie 10, 23. Bien sûr, une autre raison qui nous empêche de marcher, j'ai pas pu m'empêcher de repenser à l'intro de JL dimanche dernier, hein, la barre du capitaine, à la barre du navire de ma vie. Qui est le capitaine de ma vie? Grand coup de barre à droite, grand coup de barre à gauche. Rien à voir avec les élections, hein, bien sûr. Quel est le capitaine qui connaît le mieux la route de ma vie pour éviter les écueils et les côtes italiennes sur lesquelles on va s'échouer? Ce texte de Jérémie illustre parfaitement pourquoi beaucoup aussi, on tire la langue, on souffre, on est abattu. J'ai confiance en moi, je n'ai confiance en moi, ils n'ont confiance qu'en eux. Il veut, je veux, tu veux, nous voulons diriger notre vie. La version d'Arby est encore un peu plus affûtée. La voix de l'homme n'est pas à lui. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de diriger ses pas. Chauffe. Nous devons régler notre marche sur la sienne. 1 Jean 2,6 nous dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui a marché, lui-même. » La marche de ma vie doit être cohérente avec celle de Jésus-Christ. J'ai mis cohérente. Pour ne pas dire ne pas être incohérent. La marche de ma vie doit être cohérente avec celle de Jésus et son Père. Toc, toc. Le couple parfait. Le Père, le Fils. Pour nous, c'est une lutte au quotidien, bien sûr, contre la chair. Mes projets sont à l'opposé de ses projets. L'amitié avec Dieu signifie l'inimitié vis-à-vis de la chair, vis-à-vis du monde. Il est tellement saint. Jean 21, 18 nous dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, je ne parle pas au compteur des années, hein, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Voilà peut-être un court aperçu de la marche avec Dieu. De par nature, comme nous sommes nés, de par héritage, nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas marcher avec lui. Mes frères et sœurs, nos vies ont changé à Golgotha. Il est, on l'a rappelé encore ce matin, il est mort pour mes péchés, pour tes péchés, pour nos péchés, pour les péchés de beaucoup. Je, tu es, vous, est mort et ressuscité en lui. Tu es passé, beaucoup sont passés par les eaux du baptême pour signifier au monde visible et invisible que je, tu, vous, nous sommes morts au péché et que maintenant je, tu vis en nouveauté de vie. Nous sommes de nouvelles créatures, frères et sœurs. Bien. Alors ça, c'est le sujet bateau. Vous demandez, vous allez à la maison de la Bible, mais vous demandez des livres sur l'identité en Christ. Ce n'est que quand notre vieil homme est crucifié avec Jésus que le nouvel homme peut marcher avec Dieu. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Ce symbole du baptême d'ensevelissement dans l'eau et je renais. Golgotha est le point de départ indispensable, incontournable. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Pour démarrer sa vie avec lui. À Golgotha, ma vie ne s'est pas améliorée. Galates 2:20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est tellement ça, n'est-ce pas, sur le papier. Mais c'est une réalité, frères et sœurs. Il faut être conscient de ça quand on marche, quand on avance. Sinon, on a les jambes qui n'avancent plus. Ainsi commence ma marche avec Dieu. La relation vitale avec le Seigneur commence là où mon ancienne vie meurt. Nous l'avons laissée là. Sinon, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Es-tu crucifié avec Jésus ? Alors, conclusion, voilà, elle est courte. Sommes-nous des gens qui marchent avec Dieu ? Pierre ne commença à marcher avec Dieu que quand il fut disposé à se laisser ceindre et mener là où il ne voulait pas. Paul marcha avec Dieu car il pouvait témoigner, hein, c'est Galates 2:20, hein, je marche parce que c'est lui qui vit en moi. Quelque chose de tout nouveau peut commencer ou recommencer pour vous, pour toi, pour moi. Si quand je rentre à la maison, je ferme la porte de ma chambre et je me retrouve devant mon Dieu, si je m'agenouille devant lui, mais ça a tellement une connotation trop... Ben vous voyez ce que je veux dire, se mettre à genoux. Mais quand je dis à genoux, c'est lui, mon cœur. Si tu t'agenouilles et tu dis, je veux maintenant, mon Dieu, marcher avec toi, en me laissant conduire là où je ne veux pas. Quelque chose de tout nouveau peut commencer, peut recommencer. Je, vous, tu serez alors quelqu'un qui apprendra à marcher avec Dieu, à la gloire de son nom, dans une nouvelle vie de résurrection. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ne regardez pas Guifour, regardez le Seigneur. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. La lumière bénie, je serai tous les jours avec vous. S'il a dit ça, c'est qu'on en a besoin. tout ce que nous demande notre Seigneur, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous, il nous aime. Voilà, alors, en résumé, quelles sont les raisons qui m'empêchent d'aller au même pas que Dieu ? On a parlé du péché, on a parlé de l'influence, c'est une conséquence, hein, les puissances du monde et des ténèbres. On a parlé de la lassitude de celui qui est fatigué, conséquence d'une lassitude intérieure. On a vu comment on avait un divin modèle, comment marcher avec Jésus. Et puis cette question, sommes-nous, suis-je quelqu'un qui marche avec Dieu ? Prions. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore te rendre grâce parce que tu es un Dieu puissant, ta parole est puissante et parle à nos cœurs. Seigneur, nous avons cette assurance que tu aimes tellement tes enfants, Seigneur, et tu veux notre bien, tu désires cette intimité avec tes enfants. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu fidèle, tu te tiens en permanence à nos côtés, Seigneur, et tu n'attends qu'une chose, c'est qu'on renoue avec toi. Seigneur, donne-nous de mettre en marche notre salut comme tu nous le demandes, comme le dit ta parole. Donne-nous de marcher, Seigneur, avec toi, de suivre tes pas, d'être à tes côtés, même si parfois les pas sont lourds, si la neige est lourde à porter, Seigneur, encourage-nous et bénis-nous. Dans le bon nom de ton Fils. Amen. Bon demain.
Juste avant de vous libérer, donc deux versets suite à cette invitation au marché. C'est dans Genèse 22, 5, 22, pardon. Après la naissance de Methuselah, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Alors, je ne suis pas en train de vous souhaiter une vie sur terre de 300 ans, je ne pense pas que ce soit d'ailleurs un avantage, mais cela nous montre que l'enfant de Dieu peut marcher longtemps avec Dieu et surtout que Dieu peut nous accompagner longtemps, non, toujours.
Toujours, amen.